forcément m'enivrer du parfum des roses, me passionner pour une cause, pour un amour, pour un enfant, pour des vers ou pour de la prose. Je voudrais vivre simplement, je voudrais autre chose. Quoi, je ne sais pas vraiment. Je voudrais dire à qui m'entend qu'il y a peut-être en ce monde, quelque part au bout du printemps, des sources bleues, des sources blondes, d'où jaillissent des sentiments qui follement nous inondent. Dites-moi que quelqu'un m'attend pour entrer dans la ronde. Je travaille comme un dément chaque jour que le ciel propose, pour acheter des tas de choses dont je n'ai pas besoin vraiment. Je voudrais marquer une pause, je voudrais vivre mon destin, je voudrais autre chose. Quoi, je ne sais pas très bien. Que de chaleur, d'amitié, où l'on vient réchauffer son âme, comme la main gourde à la flamme, comme la brume à l'églantier. Je voudrais dire au monde entier qu'il faut trouver autre chose, quelque part au bout du sentier, dans un grand champ de rose.
Chansons et faites-nous les belles. Oui, faites-nous des chansons, nous les fredonnerons. Oui, faites-nous des chansons pour nous donner des ailes. Oui, faites-nous des chansons, nous nous envolerons. Si vous envolez, braves gens, aurez bien de la chance. Vous en aurez pas pour votre argent, pas pour votre espérance. Arrive que le chansonneur ait plus rien dans les poches, plus une miette de bonheur, plus une simple croche. Arrive que le rimailleur, là de se faire entendre ailleurs, reste dedans sa chambre, le cœur en plein décembre, et que le musicaillon bouffe le bois de ses crayons, déserté par les notes, les yeux remplis de flottes. C'est pas moi qui vous vendrai du troula troula l'air, c'est pas moi qui vous vendrai du vent. Si c'est ça qu'il vous fallait, du troula troula l'air, si c'est ça, fallait le dire avant. Oui, faites-nous des chansons et faites-nous les tendres. Oui, faites-nous des chansons et nous les aimerons. Oui, faites-nous des chansons qui soient douces à entendre. Oui, faites-nous des chansons et nous les rêverons. Si vous voulez rêver, braves gens, ça sera pas facile. Le rêve a pris la clé des champs, il a quitté la ville. Arrive que le chansonneur aimerait bien se taire et planquer son petit malheur sous deux poignées de terre. Arrive que le scribouilleux puisse rien écrire de mieux, que sa chandelle soit morte, frappez pas à sa porte. Arrive que le musicard ait quelques bateaux de retard, que ses soupirs débordent, qu'il ait cassé ses cordes. C'est pas moi qui vous vendrai du troula troula l'air, c'est pas moi qui vous vendrai du vent. Si c'est ça qu'il vous fallait, du troula troula l'air, si c'est ça, fallait le dire avant. Oui, faites-nous des chansons et faites-nous les drôles. Oui, faites-nous des chansons, nous nous épanouirons. Oui, faites-nous des chansons que le rire nous frôle. Oui, faites-nous des chansons, nous les achèterons. Bien, si vous rigolez, braves gens, ça sera la surprise. Faudrait pas tricoter longtemps votre matière grise. Arrive que le chansonneur est pour vous trop d'estime, pour viser plus bas que le cœur, en dessous de la rime. Arrive que le paroleux, plutôt que de se vendre au mieux, préfère encore se taire, le cul posé par terre. Et que le pauvre Écosse note, plutôt que de baisser culotte, reste dans sa cuisine à gratter en sourdine. C'est pas moi qui vous vendrai du troula troula l'air. C'est pas moi qui vous vendrai du vent. Si c'est ça qu'il vous fallait, du troula troula l'air. Si c'est ça, fallait le dire avant. C'est pas moi qui vous vendrai du troula troula l'air. C'est pas moi qui vous vendrai du vent. Qu'il vous fallait du troula, troula l'air. Si c'est ça, fallait le dire avant.
Bonjour, voici arrivée l'heure de Radio Cartable sur 89.4 FM. On a entendu le générique de Faites-nous des chansons par Anne Sylvestre dans l'album Une sorcière comme les autres. Et aujourd'hui, il s'agira d'écouter des rediffusions un peu particulières, puisque les bandes anciennes de Radio Cartable, celles des années 80 et 90, également début des années 2000, ont été en partie numérisées, mais surtout recensées par les archives municipales d'Ivry. Et donc, je vous propose d'écouter un petit florilège de ses anciens travaux d'élèves. On écoutera donc Radio Cartable du futur, qui est fait dans les années 90 et où les enfants imaginent 2004. L'interview ensuite d'une personne qui travaille un petit jardin dans les jardins ouvriers du fort. Ensuite, Jean Garcia qui nous parlera avec les enfants des métiers de la Seine et de la Bièvre. Une adjointe de direction du port autonome de Paris au moment du réaménagement de celui-ci. Et ensuite, alors je vous préviens, la qualité sera un petit peu moins bonne sur les séquences suivantes. Ce sont des enfants qui imaginent ce qu'ils voudraient pour le parc des Cormailles au moment de sa construction, et une exposition sur l'écologie qui a lieu au Crédac. En tout cas, il semble que ce soit situé au Crédac. Voilà. Et enfin, avant de nous quitter, nous écouterons la fin de l'interview de Jean-Carl Feldis que je vous avais diffusée avant les vacances. Pour l'explication de son métier de bruiteur et de musicien. Bonne écoute.
Radio Cartable. La radio des écoles d'Ivry.
Nous sommes les CE1B de l'école Franc-Nohain, Paris 13e. Nous vous proposons une émission de radio cartable enregistrée dans le futur en an 2004. Aujourd'hui, en an 2004, nous guérissons le sida grâce à un médicament qui s'appelle un antivirus. Des chercheurs ont découvert l'antivirus en an 2002, il y a 2 ans.
Aujourd'hui, en 2004, les voitures et les bus n'existent plus.
Les autres moyens de transport sont les rollers.
Aujourd'hui, nous utilisons beaucoup la fusée pour nous déplacer.
Aujourd'hui, avec cette fusée, on peut aller jusqu'à la planète Jupiter.
Les voitures ont 6 roues, elles vont beaucoup plus vite.
On conduit des voitures avec des télécommandes.
Aujourd'hui, des voitures se conduisent toutes seules en appuyant sur un bouton.
Aujourd'hui, les avions n'existent plus.
Aujourd'hui, la monnaie européenne existe pour les Français et pour les autres pays.
Aujourd'hui, en 2004, l'euro pose des problèmes. Les gens ne sont pas encore habitués. Ils ne savent pas comment l'euro marche.
Aujourd'hui, les pays européens ne sont pas encore habitué à utiliser la monnaie européenne. Ils veulent utiliser leur ancienne monnaie.
Nous sommes au stand des jardins ouvriers. Je m'appelle Fatima.
Je m'appelle Baïa.
Il y a des radis, des navets, de la salade, des artichauts. Et je vois des cerises, des fleurs, comme type de fleurs roses, des roses, des œillets.
Bonjour, je m'appelle Baïa. Votre jardin est-il à la campagne ?
Mon jardin n'est pas à la campagne. Il est dans la ville d'Ivry, près du fort. On les appelle les jardins ouvriers d'Ivry-sur-Seine.
Bonjour, je m'appelle Fatima. Où est le fort ?
Bonjour Fatima. Le fort est à Ivry-sur-Seine. Alors si on part de ton école, qui est l'école Maurice Thorez, il faut que tu ailles vers le haut, la rue Baudin, si tu la connais, celle qui passe devant l'école. Tu continues toujours tout droit et à la limite de Vitry-sur-Seine, tu vas trouver le fort. Le fort, c'est une construction, une grande construction, qui appartient à l'armée, dans laquelle il y a l'école cinématographique des armées. D'accord ? Et tout autour du fort, dans les anciennes douves, il y a du jardin. Et sur les pentes des douves qui vont vers Ivry-sur-Seine, il y a aussi des jardins.
Où vous trouvez les graines ?
Alors les graines, soit dans un premier temps, on les achète dans les magasins habilités, soit après, une fois qu'on a eu notre graine, on fait des graines avec les plantes, avec les fleurs, on les garde d'année en année. Et par exemple, si tu as une fleur, quand elle est défleurie, elle va avoir ses graines. Donc tu prends la fleur et tu la frottes. Les graines retombent sur la terre. Et l'année d'après, les mêmes fleurs vont ressortir.
Oui, je voudrais préciser que dans ces jardins, on est obligé de cultiver des légumes. Et que ces légumes, si on les laisse monter en graines, avant d'avoir ces graines, ils fleurissent. Et on peut très bien laisser faire la nature toute seule. C'est-à-dire que dû au vent, ces plantes les graines vont tomber dans le sol. Et à ce moment-là, les plantes vont se ressemer toutes seules. Et par exemple, donc cette salade, on peut la laisser, si on la laisse fleurir, il y a les fleurs, mais aussi là, il y a les graines. Et donc, il y a un moment où la poche qui contient les graines va s'ouvrir et ça va se ressemer directement en terre.
Est-ce difficile de s'occuper d'un jardin ?
C'est pas difficile, mais il faut du temps. Il faut du temps parce que comme les saisons rythment la vie de tout le monde, elles rythment la vie du jardin. Donc au départ, il faut préparer la terre pour que les plantes puissent pousser. Ensuite, comme elles sont toutes petites, ces plantes, il faut bien s'en occuper. Il faut enlever l'herbe pour que l'herbe ne détruise pas ces petites plantes. Il faut les arroser parce qu'elles ont soif. C'est leur façon de manger que l'eau arrive. Donc si l'eau ne vient pas du ciel, il faut la faire. Il faut arroser. Il faut enlever les mauvaises herbes, il faut sarcler. C'est du temps, mais ce n'est pas difficile. Il faut apprendre avec les vieux jardiniers qui savent ce qu'il faut faire et comment il faut faire. Il faut reconnaître les bonnes plantes, les mauvaises, les bons insectes, les mauvais insectes. À ton avis, quel est le meilleur insecte, l'ami des jardiniers ?
La coccinelle.
La coccinelle, et pourquoi?
Parce que elle vit sur des plantes.
C'est parce que la coccinelle, quand elle est sous forme de larve avant d'être coccinelle, elle mange que les moucherons. Et des milliers de moucherons qui, quand ils sont sur nos plantes, empêchent le fruit de venir, le haricot vert, les fleurs sont envahis de pucerons. Et pas les moucherons, mais les pucerons. Et la coccinelle les mange. Mais c'est pas le premier. Le premier, c'est l'abeille. Pourquoi ? Parce que l'abeille nous donne le fruit, parce que l'abeille nous donne les fleurs, parce que l'abeille nous donne les légumes.
Elle prend le nectar.
Elle prend le nectar pour faire son miel, mais avec ses petites pattes, elle transporte de fleur en fleur, des choses qui vont permettre aux fruits d'arriver. Elle prend une petite chose mâle qu'elle va mettre dans une petite chose femelle et ainsi le fruit va naître. S'il n'y aurait pas d'abeilles, il n'y aurait pas de fruits, il n'y aurait pas de fleurs qui fructifieraient. Voilà pourquoi l'abeille est la meilleure amie du jardinier.
Donc je voudrais rajouter que ces jardins ouvriers existent depuis plus de 100 ans et que de plus en plus aujourd'hui, c'est une activité qui était réservée aux hommes et que de plus en plus aujourd'hui, il y a des femmes qui s'intéressent au jardinage et qui prennent plaisir à cultiver des légumes et des fleurs pour le plaisir de tout le monde, des petits comme des grands.
Merci et au revoir.
Bonjour, je m'appelle Soraya.
Bonjour, je m'appelle Sophia.
On présente l'émission pour Radio Cartable.
Est-ce que vous voulez bien vous présenter ?
Oui, je m'appelle Jean Garcia, je suis responsable de la CGT du Val-de-Marne et je m'occupe aussi un petit peu de l'exposition que vous voyez aujourd'hui.
On veut vous poser des questions sur les métiers qu'il y avait avant, au bord de la Seine. comment traverser la Seine avant?
Mais avant, il y avait des bateaux qui permettaient aux gens de traverser la Seine, sauf qu'il fallait attendre que le bateau soit là et qu'il y ait suffisamment de monde pour monter dans le bateau, etc. Ça permettait pas de passer la Seine quand on le souhaitait. Il fallait attendre.
Est-ce qu'on pourrait savoir à quelle époque on a eu l'idée de construire des ponts?
Les premiers ponts étaient faits à Paris, mais il y en avait un tous les, je sais pas, 20 ou 30 ou 40 ou 50 kilomètres. Mais petit à petit, régulièrement, il y a des nouveaux ponts qui ont été construits. Il y en a encore qui se construisent aujourd'hui. Celui de la A86, par exemple, à Choisy-le-Roi, a été construit il y a une dizaine d'années. C'est un des derniers ponts qui a été fait sur la Seine pour le moment. Mais il y en avait beaucoup avant.
Alors, on voudrait savoir pourquoi il y avait des tonneaux au bord de la Seine.
Mais parce qu'à Paris, on ne faisait pas de vin et que les Parisiens buvaient du vin. Il fallait bien que le vin arrive par un moyen de transport ou par un autre. Or, la Seine permettait de faire venir par la Seine et par la Marne du vin de Bourgogne, de Champagne, etc. Donc, c'était chargé sur des péniches. Les tonneaux étaient chargés sur des péniches, des zones de production. Et ensuite, c'était amené essentiellement à Charenton, juste en face d'Ivry, où on déchargeait les tonneaux qui étaient amenés à Bercy, qui était une grande foire du vin. Et puis là, les commerçants venaient l'acheter pour ensuite le revendre sous forme de litres à l'ensemble des Parisiens. Voilà.
On est en train de regarder une photo de 1910. On voit une femme qui est en train de laver son linge. Elle est à genoux sur une brouette au bord de la Seine. Elle lave son linge et elle le sèche sur de l'herbe. Alors pourquoi les femmes laveuses se mettaient sur une brouette pour laver le linge?
Mais d'abord, elles ne se mettaient pas sur la brouette. Elles arrivaient, la brouette, elle a une roue, donc ça permettait de transporter le linge. Elles mettaient tout leur linge sur la brouette. Ensuite, quand elles arrivaient au fleuve, elles rentraient la roue dans le fleuve, qui était en pente douce. Hein. Et puis, ça leur permettait à la fois d'avoir le linge et de pouvoir, avec le petit truc qu'il y a juste devant, là, pour s'accroupir, de pouvoir laver dans la Seine. Ensuite, elles remettaient le linge sur la brouette. Et puis elles allaient l'étendre sur les prés ou les petits ados qu'il y avait sur le côté, ou alors sur des fils, comme aujourd'hui, pour faire sécher le linge. Voilà.
Est-ce que c'était un métier pour les femmes?
Il y avait des femmes qui faisaient ça pour leurs besoins domestiques, mais il y avait aussi des femmes qui avaient beaucoup plus d'argent dans des familles et qui avaient plus d'argent et qui ne voulaient pas faire la lessive par elles-mêmes. Et donc, ils demandaient à des gens de faire leur lessive. Et c'est devenu un métier. Blanchisseuse était devenu un métier. On déposait le linge sale chez la blanchisseuse. Et puis, deux, trois jours plus tard, je ne sais pas, la blanchisseuse rendait le linge propre et repassait. Et là, vous voyez, c'est sur les bords de la Bièvre. C'est une rivière qui existe encore, mais qui a été recouverte parce qu'à force de mettre des tas de choses dedans, elle a fini par sentir beaucoup. Mais vous voyez là, les blanchisseuses qui sont sur le bord et qui lavent le linge. Alors, les familles leur amenaient du linge à laver. Elles lavaient le linge, elles leur amenaient le jour même ou le lendemain, laver, propre, etc. Et c'était un métier tout le long de la Bièvre.
Alors, pourquoi les fabricants de chaussures étaient au bord de la Seine?
Mais d'abord, ils n'étaient pas au bord de la Seine, ils étaient au bord de la Bièvre. Parce que la Seine, c'est un grand fleuve et on ne pouvait pas installer les tanneries. Donc on les a installées sur une petite rivière qui coule entre Cachan et Villejuif et Arcueil, qui s'appelle la Bièvre, et qui était suffisamment petite pour qu'on puisse y mettre des pots. C'était des pots de brebis ou de moutons, des pots qu'on prenait sur les bêtes et qui étaient tannés. C'est-à-dire qu'elles étaient préparées, prêtes pour être utilisées pour faire des habits, mais aussi pour faire des bottes, pour faire des chaussures. Et là, on voit un cordonnier en train de fabriquer des chaussures qui utilisait les peaux qui étaient tannées juste à côté, sur les bords de la Bièvre.
Pourquoi il y avait des briques à côté de la Seine?
C'était à côté, c'était surtout à l'endroit où il y avait des carrières d'argile, c'est-à-dire la terre qui permet de faire des tuiles et de faire des briques. C'était pas loin de la Seine parce que les faire les plus près du fleuve, ça permettait aussi de pouvoir les transporter plus facilement. C'est pour ça que beaucoup d'industries se sont installées à côté du fleuve, parce que sur le fleuve, il y a des bateaux qui peuvent naviguer, qu'on peut charger les bateaux et que ça permet de transporter d'un endroit à l'autre. C'est pour ça que les briqueteries, par exemple, à Maison Alfort, il y en avait à Ivry, il y en avait à Choisy-le-Roi, il y en avait à Villeneuve-le-Saint-Georges, ce qui permettait de, à la fois de fabriquer, parce qu'il y avait la terre qui n'était pas loin, de les fabriquer et aussi de les transporter, parce que toutes les productions qui étaient faites, c'était fait pour Paris. Paris, c'était la grande ville, et tout ce qui se fabriquait, c'était fabriqué pour la grande ville. C'était, on le faisait sur place et on l'envoyait, puisque la Seine passe à Paris, on l'envoyait par bateau sur la Seine, et c'était déchargé à Paris, c'était utilisé à Paris.
Alors, merci d'avoir répondu à nos questions.
C'est moi qui vous remercie d'avoir posé les questions, parce que ça me fait plaisir d'y répondre.
Au revoir.
Je m'appelle Estelle.
Je m'appelle Mariam.
Je m'appelle Ashley.
Est-ce que nous pouvons vous poser des questions pour Radio Cartable?
Bien sûr, avec plaisir.
Qui êtes-vous?
Alors moi, je m'appelle Pierrette Giraud et je suis adjointe au directeur de l'agence portuaire Seine-Amont, au port autonome de Paris.
Pourquoi êtes-vous ici?
On est ici parce que dans le cadre du Festival de l'eau, on a prêté notre port au Festival de l'eau et à la ville d'Ivry pour que puisse se dérouler la fête de la ville d'Ivry, le Festival de l'eau. Et donc, on a, pour faire connaître le port aussi, on a décidé d'avoir un stand ici.
Est-ce que la Seine peut toujours aller jusqu'à la mairie?
Oui, tout à fait. Il y a un mur anti-crue qui a été construit, mais il est construit jusqu'à la crue de 1955. Or, la crue de 1910 a été beaucoup plus haute. Et il se pourrait qu'il y ait encore une crue aussi haute, voire plus. C'est une crue qui revient à peu près tous les 100 ans.
Pourquoi y a-t-il des usines qui fabriquent du béton au bord de la Seine?
Il y a des usines qui fabriquent du béton au bord de la Seine parce qu'on a tous besoin de béton. C'est le produit industriel le plus utilisé au monde. L'avantage que ça soit au bord de la Seine, c'est que les granulats, les sables et graviers peuvent arriver par la voie d'eau et comme ça évite qu'il y ait beaucoup de camions sur la route.
Qu'est-ce que les péniches transportent?
Les péniches, elles transportent beaucoup de choses différentes. Elles transportent du sable, du gravier, des terres. Des céréales, des produits manufacturés comme des parpaings, des choses comme ça. Elle transporte aussi des déchets industriels, des ordures ménagères. Elles peuvent aussi, plus grandes que les péniches, peuvent aussi transporter des conteneurs. Toute une gamme de produits qui sont adaptés pour transiter par la voie d'eau.
Comment va être le port après?
Le port là que tu as vu, toute la partie industrielle a été refaite, tous les industriels ont refait leurs installations. Nous, on a fait une promenade pour que les gens d'Ivry puissent voir l'eau quand même s'il y a le port. Et la partie sur laquelle tu es ici, ça va être une zone d'animation loisirs avec des bateaux activités qui vont faire du cinéma, des restaurants, du théâtre. Voilà ce que sera le port après.
Comment était le port avant?
Le port avant, il n'était pas très beau, il était très vieux. C'est un port qui est très ancien et les installations industrielles qu'il y avait, elles dataient d'à peu près 30 ans, voire 40 ans. Elles étaient toutes complètement vétustes. La façade du port n'était pas belle. Les gens ne pouvaient pas voir l'eau, ils ne pouvaient pas voir les activités portuaires. Et donc, c'était pas très joli. Donc, on a décidé de tout refaire.
Est-ce qu'il va avoir un port pour les passagers?
Oui, ici où tu te trouves, ça va être un port qu'on appelle un port d'animation loisirs. Et tu vas pouvoir embarquer pour aller faire des tours, des promenades, soit sur la Marne, soit vers Paris. Et tu pourras donc te promener sur les bateaux à partir d'ici.
Au revoir et merci.
C'est avec plaisir que je vous ai donné toutes ces informations. Alors à bientôt.
Quelque chose en attendant le jour qui vient.
parc des Cormailles comme on l'imagine. Nous sommes la classe de CM2 dans l'école Petit Ivry D. Nous avons travaillé l'organisation d'un espace. Notre atelier de pratique artistique est né de la collaboration entre le CREDAC et l'ABRAC, Direction régionale de l'art contemporain. Les architectes Hubert et Bénédicte ont collaboré avec nous. L'ensemble du travail a cherché à développer des moyens de faire un parc, là où sera créé le futur parc des Cormailles. Nous avons visité le CREDAC, Centre de recherche et de diffusion d'art contemporain. Puis, nous avons visité des sculptures dans Ivry accompagnées de deux jeunes architectes, Bénédicte et Hubert. Avec eux, nous avons décidé de travailler sur la composition de ce que nous aimerions trouver dans le parc des Cormailles. Nous avons créé notre propre parc sur un grand papier carton. Nous avons dessiné, collé ce que nous aimerions y trouver. À l'aide de Bénédicte et d'Hubert, nous avons pu avancer à notre projet d'architecte et ils nous ont aidés à mieux réfléchir. Ils sont là presque tous les mardis pour travailler avec nous. Nous travaillons par groupe de 4 ou 5, nous travaillons sur les collages. Par groupe, nous avons choisi notre propre candidat pour écrire notre projet et pour le révéler aux autres enfants. Nous aimerions un jour trouver un de nos projets réalisés. Le parc des merveilles. Nous avons fait des schémas de parc et nous sommes passés au plan. C'est là que nous avons créé le parc des merveilles. Dans ce parc, nous y avons installé des jeux pour enfants, un aquarium, un cirque, un théâtre de marionnettes, des terrains, des labyrinthes, des restaurants, une statue centrale, un petit train, une allée centrale que nous avons appelée l'allée des arbres de couleur, car tous les arbres sont de couleurs différentes. Nous aimerions que le parc des Cormailles soit construit avec quelques de nos idées. Le jardin de l'eau. Nous avons tracé les allées, la butte, les places, puis nous avons divisé notre parc en plusieurs parcelles. Nous avons collé de l'eau et des matériaux que nous avons découpés dans des catalogues. Et, au fur et à mesure de notre parc, a évolué. Si nous l'avons appelé le jardin de l'eau, c'est parce que nous pouvons y circuler en barque et il y a beaucoup d'activités aquatiques. Le parc des Cormailles est en train de se construire. Il sera ouvert partiellement en 2002 et complètement en 2004. Le parc des quatre saisons. Nous vous invitons à le visiter. L'espace automne. Vous avez des fleurs et des arbres aux couleurs d'automne. Vous avez un labyrinthe et un restaurant. L'espace été. Vous avez des palmiers, un zoo, le restaurant principal et l'entrée par la rue du docteur Esquirol. L'espace hiver. Vous avez la butte, des citrouilles, du gazon, des arbustes, des petits chemins et de la terre. L'espace printemps. Vous avez de l'herbe fraîche et vert clair. L'espace jeu. Vous avez des toboggans, des bacs à sable, un labyrinthe et des bancs. Nous avons fait un grand plan avec des collages et des coloriages. Le plan est à l'échelle 1/60. Station nature. Les premières choses à laquelle nous avons pensé sont Les chemins, la butte, les arbres, les terrains de jeu, les sculptures. Puis nous avons colorié et collé les sculptures. Puis nous avons évolué dans le plan. Le parc est dans le centre d'Ivry, près des voies de chemin de fer. Si nous l'avions appelé station nature, c'est parce qu'il y a beaucoup de nature. Nous aimerions que le parc de Cormail soit construit avec quelque chose de nos idées. L'île aux animaux. Nous avons décidé de travailler sur la composition de ce que nous aimerions trouver sur le parc des Cormail. Ensuite, nous avons fait des schémas de notre parc pour le recréer sur une échelle au 1/500. Nous avons divisé notre parc en 10 parties grâce à des allées. Ces 10 parties sont jeux, magasins, course à pied, île, zoo, piscine, terrain de foot, terrain de tennis, rond-point. Si nous avons appelé ce parc l'île aux animaux, c'est pour deux de ses grosses parties, l'île et le zoo. Ce travail nous a intéressés. Nous aimerions bien construire d'autres endroits.
Moi, j'aimerais bien reconstruire l'école.
Eh bien, aujourd'hui, nous allons vous parler d'une sortie que nous avons faite et qui s'appelle la planète précieuse. Et c'est de ça que nous allons vous parler.
L'exposition La planète précieuse. Nous avons été accueillis par un guide qui nous a fait nommer les différentes sources d'énergie renouvelables. L'eau, le soleil, le bois et le gaz. Ou non renouvelables, le pétrole et le charbon.
Mais qu'est-ce que c'est les énergies renouvelables et l'énergie non renouvelable?
Par exemple, l'eau, le soleil, le bois et le gaz, c'est des énergies qu'on peut avoir sans arrêt. Mais le charbon... Et en dessous le sol, on a des réserves de pétrole et de charbon. Et puis si on n'en économise pas, et ben on n'en aura plus.
Mais oui, moi je trouve que le bois et le gaz, alors ne sont pas des énergies renouvelables.
Pourquoi ?
Et bien parce que si on coupe les arbres qui sont dans la forêt et qu'on n'en replante pas d'autres... Eh bien, il n'y aura plus de forêt, il n'y aura plus de bois. Et le gaz, ce sont des réserves qui sont sous la terre. Alors, si on n'en économise pas, eh bien, et après, il n'y aura plus de gaz.
En vérité, c'est l'eau et le soleil, les énergies renouvelables.
Non, moi j'en connais une autre.
Laquelle ?
Le vent.
Ah oui, on en a parlé à l'exposition. Eh bien, Samira, tu nous fais continuer la suite.
Dans la maison, nous avons vu qu'il fallait économiser l'eau, l'électricité, lampe basse tension, la chaleur en isolant.
Eh bien, André, maintenant, c'est toi qui nous fais la suite de la visite.
Nous avons ensuite visité la rue.
C'est quoi la rue ?
Eh bien, il y avait une voiture, un petit enfant avec un cartable et un feu rouge. Et le petit garçon disait, moi, je vais beaucoup plus vite à pied. Ce qui signifie que quand on va à pied, ça ne pollue pas, puisque quand on est tout seul dans une voiture, on pollue beaucoup.
Et maintenant, je vais vous raconter la suite de la visite. La voiture électrique, les avantages du bus. L'étape suivante nous a permis de voir une plaque solaire.
Et donc, Audrey, puisque tu parles de la plaque solaire, ça sert à quoi une plaque solaire?
Eh bien, moi je sais à quoi ça sert la plaque solaire. Et il mettait un petit soleil et une lumière derrière. Il mettait la plaque solaire devant. Et quand ils allumaient la lumière, il y avait un petit pot d'eau où ils avaient mis de l'eau dedans. Et ils avaient branché un tube qui était dans l'eau avec des fils. Et puis à chaque fois, chaque minute, il y avait de l'eau qui sortait. Et puis évidemment, ça retombait dans le pot. Et comme ça, sinon il n'y aurait plus d'eau. Et puis c'était ça servait à montrer pour faire sortir l'eau au lieu d'en chercher. Comme ça, à chaque fois, et bien on prenait ce système-là et ça faisait sortir l'eau. Voici la fin de la visite. Elle contient des cristaux de silicium. Puis, nous avons appris une terrible nouvelle. Dans la grande forêt d'Amazonie, au Brésil, on brûle toutes les minutes l'équivalent d'un stade entier.
Et bien moi, dans la visite, surtout, ce que j'ai aimé, c'était la plaque solaire. Parce que c'était rigolo quand toutes les minutes, il y avait un peu d'eau qui sortait. Ça faisait un peu comme un jet d'eau. Puis après, il y avait une grande affiche où il y avait des plaques solaires. Et il montrait le sol. Il y avait comme cette petite... la pompe qui descendait. Et puis, ça faisait sortir l'eau. Alors, il nous l'a expliqué. Et puis, ça servait à faire sortir l'eau, surtout dans les pays désertiques.
Et moi, ce qui m'a bien plu, c'est qu'à un moment, il y avait un tout petit film, et puis il paraît que sur la pollution, parce qu'il y avait un monsieur qui était habillé en orange, qui était avec un autre monsieur dans la voiture, et puis le monsieur qui était habillé en orange, et ben, il était un petit peu magicien. Alors, il a tapé sur la voiture et puis il a dit au monsieur, avant de taper sur la voiture, il a dit au monsieur, est-ce que vous pouvez arrêter votre moteur parce que ça sert à rien, ça va polluer la terre.
Et Audrey, tu oublies qu'après, le monsieur est sorti dehors et comme le monsieur qui il était dans la voiture avant a pu avancer, il a dit à l'autre, et en arrière, ça ira mieux comme ça, il y avait beaucoup plus de place.
Ce que j'ai bien aimé, moi aussi, c'était qu'on a eu des cadeaux. Alors, on a eu un pins, deux feuilles d'autocollants, on a eu plusieurs dépliants, on en a eu deux ou trois, et puis on a eu un cahier, on a eu aussi un crayon, et la mine est une partie verte, et... cette partie verte, elle est faite avec plusieurs produits recyclés.
Et Audrey, tu oublies que le cahier est fait avec des vieux papiers recyclés et que les pages sont blanches pourtant. Et bien, si cette visite vous a intéressé, nous avons pris le métro, nous sommes partis à Pierre-Curie, nous sommes descendus à Palais-Royal et je vous donne l'adresse. 15 rue du Louvre, et après nous sommes entrés dans une grande maison qui s'appelle la Maison de l'énergie, et le numéro de téléphone c'est 45 08 57 45, je vais vous le répéter, 45 08 57 45, ou par Minitel 36 15 Adam.
Si vous voulez y aller, bonne visite. C'est fini pour les infos.
Les infos de Radio Cartable.
Sur une map monde, on voit les mers en bleu, que la terre est bien ronde, que tout va pour le mieux. Mais au niveau du sol, il y a des habitants, et la cour de l'école et tous les adjudants. Des océans qui grondent, des montagnes en feu, des immeubles qui tombent et des gens malheureux. C'est pour ça qu'il vaut mieux, quand on a des ennuis, regarder vers le haut, mais quand le ciel est gris, se dire que la terre a des problèmes aussi. Sur une map monde, on les voit tout petits. Je voudrais voir le monde ainsi qu'on l'a décrit, sur une map monde avec tous ces pays. Mais au niveau du sol, il y a toujours des gens qui perdent la boussole en gagnant plein d'argent. Et les armées qui marchent se déchirent ou se noient, sous des canons qui crachent, qui détruisent et qui broient. C'est pour ça qu'il vaut mieux, tant qu'on en a envie, se trouver bien heureux d'être toujours en vie. À faire le tour du monde, en rêvant dans son lit, sur une map monde où tout est si joli. Où la terre est bien ronde, où la mer est bien bleue, où pour quelques secondes tout irait pour le mieux. Où la terre est bien ronde, où la mer est bien bleue, où pour quelques secondes tout irait pour le mieux.
Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cartable.
Nous sommes les CM1B de l'école Jules Curie B.
Voici une nouvelle émission consacrée aux films qui sont diffusés dans le cadre du dispositif École et Cinéma.
Élodie, tu peux nous rappeler ce que c'est École et Cinéma ?
Eh bien, cela veut dire que toutes les classes qui sont inscrites s'engagent à aller voir les trois films proposés pour tous les élèves du cycle 3 du 94. Cela fait à peu près un film par trimestre.
Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Jean-Carl Ferdis.
Mais qui est-ce ?
Eh bien, c'est un bruiteur et un musicien pour le cinéma.
Bonne écoute à tous !
Bonjour Jean-Carl, pourriez-vous vous présenter aux auditeurs de Radio Cartable ?
Oui, moi je suis musicien et bruiteur.
Pour quel type de film faites-vous des bruitages ? Les choisissez-vous ?
Alors, pour quel type de film ? Bah, ça dépend. Voilà, quand je suis compositeur, moi, on a besoin de musique un peu dans tout type de film, tu vois, que ce soit pour la télévision ou pour le théâtre. Après, les bruitages, c'est quand même plus rare, un peu plus rare. Donc, pour les dessins animés, alors là, en ce moment, je travaille sur une bande-annonce d'un éditeur, voilà, qui me demande, parce que les dessinateurs sortent des livres, et quelquefois, les éditeurs, pour mieux vendre les livres, tout ça, c'est du commerce, hein, font une petite animation. Et voilà, là, je dois composer de la musique et faire des bruitages aussi, tu vois, donc ça dépend en fait. Et alors les choisir, ça c'est l'idéal, oui, moi j'ai la chance de pouvoir en choisir quelques-uns, parce que je fais plusieurs métiers aussi, parce que je suis dans le spectacle, moi, donc des fois je mets ça en avant, je préfère être devant un public que d'être derrière un ordinateur, mais ça c'est mon choix, hein. Je dis pas que j'ai raison, c'est tout que je préfère.
Quel est le film ou projet que vous avez le plus aimé mettre en son et pourquoi ?
Ce que j'ai le plus aimé faire, je pense, c'était pas spécialement travailler pour l'image. Voilà, je vous le dis sincèrement. Moi, ce que j'ai aimé, c'est plus le spectacle vivant. Donc, j'ai la chance de travailler avec des compagnies de théâtre aussi. Et au théâtre, je trouve qu'on essaye encore beaucoup de choses. Le cinéma, je trouve, a tendance à fermer un petit peu. C'est-à-dire, bon, là, je vais pas rentrer dans des débats, hein, c'est un peu compliqué. Mais voilà, j'aime le spectacle vivant. Donc, j'ai beaucoup aimé travailler avec mon groupe. J'ai eu la chance d'avoir mon groupe où on essayait plein de choses. On essayait des bruits en direct. On faisait brûler de la pellicule en direct. Et oui, on s'amusait. Oui, oui. On essayait plein de choses. Ça veut pas dire que c'était bien forcément, mais j'aime essayer. Qu'au cinéma, on peut plus trop essayer, il faut trouver. trouver et produire. Voilà, donc moi j'aime bien ça aussi, mais comme je vous l'ai dit, moi j'aime bien la création, la recherche, et je trouve qu'en live, on peut essayer des choses, encore une fois, voilà.
Vous avez déjà fait des dessins animés ?
Pas des dessins animés connus, rassurez-vous, je suis pas connu, de toute façon, je suis pas quelqu'un de connu du tout. Mais il n'y a pas que des gens connus qui travaillent dans mon métier, heureusement. Hein. Vous, vous connaissez que les gens connus parce que vous regardez un peu la télé, donc là, c'est un peu la cerise sur le gâteau quand on m'aime, et il y a tout le gâteau du dessous que personne connaît, mais c'est plein de métiers. Et ça va jusqu'au cinéma, à l'esquie, vous voyez, ça va jusque-là, quoi. Le cinéma, il faut aller le voir dans les salles de cinéma ou sur les téléphones portables, à votre avis ? Voilà, et ça aussi, ça évolue les amis, je sais, moi j'ai des enfants, vous savez, j'ai une ado, hein, et ça me fait mal, hein. Des fois je la vois regarder des films, et là, je lui arrache son téléphone, je lui dis non, un film ça se regarde en grand écran, c'est du spectacle, mais là ça change aussi, c'est une question de génération, je sais que vous, un jour vous aurez peut-être un téléphone, et vous regarderez aussi des films là-dessus, donc ça change un petit peu.
Vous avez déjà fait des films d'horreur ?
Travaillé pour un téléfilm, alors il était interdit au moins de...
10 ans.
Non, quand même pas, heureusement. 16 ou 12, ce qui est déjà beaucoup pour TF1, je trouve. Où il y avait des scènes un peu dures, c'est pas un film d'horreur, mais bon, n'oubliez jamais que le cinéma, c'est du spectacle, les amis. Hein. On vous fait peur, mais on se bagarre pour de faux, on meurt pour de faux dans les films, vous le saviez.
Oui.
Vous savez que c'est pas du vrai sang.
C'est
du ketchup, on est bien d'accord. Hein. Donc les monstres, tout ça, ça n'existe pas. Mais on fait en sorte que vous y croyez. Normal, c'est notre métier de faire ça. Et j'ai fait aussi un film d'animation, un court-métrage, où c'était des monstres. Alors ça, c'était très chouette, très dur pour moi à faire le bruitage. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça n'existe pas des monstres. Donc là, c'était des monstres qui arrivaient, des monstres aquatiques en plus. Oh, c'était super dur. Fallait qu'on entende des bruits de bulles un peu... des choses comme ça. Que ça. En plus, ils rotaient. Non mais ouais, c'est comme ça, c'était difficile, alors aller faire roter un animal marin, enfin bon...
Est-ce que vous avez rencontré des acteurs ?
Ça fait toujours un peu bizarre hein, quand tu rencontres quelqu'un de connu. Pour eux, ça doit être un cauchemar, moi je le dis sincèrement, quoi. Vous voyez, de s'appeler Johnny Depp et d'être à Paris, c'est un cauchemar, vraiment. Enfin, je sais pas si vous savez qui c'est, Johnny Depp, non, peut-être pas... Pirates des Caraïbes, vous voyez qui c'est ? Bah, le comédien de Pirates des Caraïbes. C'est à lui hein, comme un autre, hein, parce que j'ai déjà rencontré lui et c'est un cauchemar pour eux. Hein. Ils vivent. Alors c'est dur ce que je vous dis, parce que c'est des gens très riches, ils ont plein de sous, ils s'achètent une île déserte, des châteaux, ils s'achètent ce qu'ils veulent, mais dans la rue, ils peuvent pas aller acheter le pain, quoi. Pourquoi, à votre avis ?
Les paparazzis.
Bah, pas que les paparazzis, même les gens. Hein. Moi, j'ai halluciné. Hein. Je suis tombé sur Johnny Depp dans un bar à Paris. Il n'y avait personne dans le bar. En deux secondes, c'était incroyable. Comme si les gens... Mais il a fui, quoi. J'ai vu aussi vite qu'il est parti. C'était hallucinant. Et vous voyez, c'est une vie difficile quand on est très, très connu, parce que les gens, voilà, ils sont un peu chez eux, ils ne peuvent plus sortir, donc ils font tout sur Internet. Mais c'est une drôle de vie. Moi, je trouve ça un petit peu triste, non ? Vous ne trouvez pas ? Mais oui, j'ai rencontré des comédiens. Oui, ça m'est arrivé.
À quel âge avez-vous commencé votre profession sur les bruitages ?
Les bruitages, j'ai commencé un peu tard. La musique, j'ai commencé adolescent. J'avais 15-16 ans. J'ai commencé tard la musique. Il y a peut-être des musiciens ici qui apprennent. Tant mieux, hein, commencer tôt, c'est chouette. Moi, j'ai commencé très tard parce que voilà, dans ma famille, il n'y avait pas de musiciens non plus. Bon, voilà, il a fallu convaincre mes parents de m'inscrire pour faire une école de musique. Pardon ? Non, moi, je ne chante pas. Bah, t'as vu la voix que j'ai ? Hein, ça... Si, je fais... Ah, j'en joue de plusieurs. Je fais de la guitare électrique, je fais de la basse, un peu de piano, je fais de la batterie aussi, un peu de violoncelle, de contrebasse. Bah, j'aime bien la musique, moi, tu vois. Donc, ça veut pas dire que je suis bon dans tous ces instruments, pas du tout, hein. Mais j'essaye, voilà. Moi, ça me plaît et j'ai pas peur. Faut pas avoir peur, surtout. Quand on apprend un instrument, faut pas avoir peur.
se passe votre collaboration avec le reste de l'équipe d'un film? Rencontrez-vous le réalisateur, les comédiens?
Alors, les comédiens, pas forcément. Ça peut arriver si je dois les enregistrer. Bien entendu, ça m'arrive aussi quelquefois d'en enregistrer. À la base, moi, je rencontre surtout le réalisateur, le monsieur qui fait le film. Parce qu'il doit m'aiguiller, il doit me dire ce qu'il a envie d'entendre. Moi, je peux éventuellement lui proposer des choses aussi. Et souvent, au cinéma, on parle de famille. Je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, de trouver une famille. C'est une image que je vous donne, hein. C'est pas mon papa ou ma maman. C'est de trouver des gens avec qui on s'entende bien pour travailler. Et dans l'histoire du cinéma, il y a beaucoup de réalisateurs qui sont mariés avec des compositeurs. Connaissez un réalisateur qui travaille toujours avec le même compositeur? Bon, difficile ma question. Hein. Je peux essayer. Non, hein, mais je vous le saurai, vous verrez. Il y a plein de réalisateurs qui travaillent toujours avec le même compositeur. Parce qu'ils s'entendent bien, ils se connaissent, ils savent ce qu'ils veulent. Moi, j'ai déjà rencontré des réalisateurs, je ne comprenais pas ce qu'ils voulaient. Mais ça ne veut pas dire qu'il était bête, ni moi. C'est juste que je ne comprenais pas. Il entendait des choses que moi, je n'entendais pas. Et moi, j'entendais d'autres choses que lui n'entendait pas non plus. Quand je vous dis que ce n'est pas évident de trouver quelqu'un, ce n'est pas évident. Alors des fois, ben, il n'y a pas une super ambiance. Et des fois, ça se passe très bien. Ça dépend. Ça dépend. Mais en général, je rencontre surtout les réalisateurs, puis des fois les producteurs. C'est quelqu'un qui doit trouver de l'argent, alors le sien ou avec d'autres, hein, il trouve plein d'argent pour pouvoir acheter les caméras, payer les comédiens, payer les musiciens, les bruiteurs, payer le studio, payer le micro. Et ça, ça coûte très très cher. Oui, j'ai le droit d'aborder mon salaire. Vous savez ce que c'est un salaire?
Oui.
Ben voilà, ben on a le droit d'en parler avec un producteur. C'est avec lui qu'il faut en parler.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Jean-Carl, et à bientôt.
J'ai beaucoup parlé, est-ce que vous avez bien compris ce que je vous ai dit?
Oui.
Ouais, ben elles étaient intéressantes vos questions, les enfants, bravo, hein, moi je les ai trouvées pertinentes.
Tu auras l'air d'un tronc par-dessus la rivière. Tu auras l'air d'un rien sur quoi je peux marcher. L'air d'un trait d'union, l'air d'une passerelle. L'air de ce par quoi je peux aller plus loin. L'air d'un fond sonore, l'air d'une ritournelle. L'air d'une musique dont je n'ai pas besoin. Tiens-toi droit, si tu t'arrondis, tu auras l'air d'une arche. Tiens-toi droit, si tu t'arrondis, tu auras l'air de quoi? Tu auras l'air d'un peu, l'air d'un plus grand chose. L'air d'un intermède, d'une récréation. L'air d'un amant pour bibliothèque rose. D'un soupirant pour représentation. L'air d'un grand chemin comme tous les autres. Prêtant à mes pas son sol aplani. L'air d'un macadam, l'air d'un qui se vautre. Content, bien content de ses avanies. Tiens-toi droit, si tu t'arrondis, tu auras l'air d'une arche. Tiens-toi droit, si tu t'arrondis, tu auras l'air de quoi? Mais moi je ne veux pas que tu t'arrondisses. Je veux contre toi toujours me heurter. Laisse-moi tous les précipices que sous mes pas l'amour va susciter. Je ne veux pas de pont, je veux des rivières. Je veux des torrents où tourbillonner. Je veux cette vie, je la veux entière. Même si mon cœur y doit suffoquer. Mais tiens-toi droit, ne t'arrondis pas, il faut que je marche. Tiens-toi droit, si tu t'arrondis, j'aurai l'air de quoi?
tu raisonnes, tu prétends que dans un fourré, tu as vu le loup en personne fumer une pipe carrée. Ne me monte pas la tête, je sais très bien que le loup ne fume que la cigarette ou des branches de houx. Je ne suis pas non pas si bête que je le parais, je ne suis pas non pas si bête que tu le voudrais. Tu me dis que la rivière chante des psaumes latins, que même elle fait sa prière tous les dimanches matins. Non, tu ne me feras pas croire qu'on a pu la baptiser, qu'un abbé en périssoire a pu l'asperger. Je ne suis pas non pas si bête que je le parais, je ne suis pas non pas si bête que tu le voudrais. Tu racontes que la chèvre de la vieille mère Mathieu met parfois du rouge à lèvres et se coupe les cheveux. Que tu mentes, je m'en fiche, mais je l'ai de mes yeux vus se raccourcir la barbiche, oui, mais rien de plus. Je ne suis pas non pas si bête que je le parais, je ne suis pas non pas si bête que tu le voudrais. Et pour comble, tu m'assures que tu m'aimeras toujours et que tu prendras la bure si je ne t'aime d'amour. Si cette fois, la première, tu avais pu dire vrai, de tes mensonges, mon père, tu te confesserais. Je ne suis pas non pas si bête que je le parais, je ne suis pas non pas si bête que tu le voudrais. Si la pluie te mouille, mon amour nouveau, si la pluie te mouille, n'aie pas peur de l'eau. Tu te fais grenouille, mon amour tout beau, et la pluie vadrouille le long de ton dos. Si le vent t'évente, mon amour léger, si le vent t'évente, ce n'est pas un danger. En feuilles volantes, tu peux te changer, en feuilles mouvantes, sans te déranger. Si la nuit te cache mon si clair amour, si la nuit te cache, reviendra le jour. Rompons nos attaches, prenons ce détour qui déjà nous lâche dans le petit jour. Et si l'amour passe, mon amour têtu, et si l'amour passe, à cœur que veux-tu, lui ferons la chasse. Et c'est bien couru, un amour.
Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand, avec à la technique le talentueux Xavier Lecomte, que je remercie très chaleureusement. Cette émission préenregistrée est consacrée à l'éditeur Léo Cher et à son livre « Manifeste du Parti anarchiste » publié aux mêmes éditions Léo Cher. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, cet ouvrage n'est pas un plaidoyer ni même une injonction à vivre selon tel ou tel modèle. Il s'agirait plutôt d'une épopée sentimentale, d'un autoportrait en creux, assez inattendu, où l'on découvre entre les lignes et à partir d'anecdotes intimes l'itinéraire d'un survivant, d'un aventurier du bonheur de lire, guidé, comme il le dit lui-même, par le seul souci d'une liberté absolue. On ne naît pas anarchiste, on le devient, nous dit encore Léo Cher, dont je vous invite à découvrir de ce pas le côté libertaire et résolument en marge. Bonne écoute à tous. Léo Cher, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous allons parler, Léo Cher, d'un livre très particulier. J'ai trouvé Manifeste du Parti anarchiste. Ça vient de paraître dans votre maison d'édition, édition Léo Cher. Le titre est déjà surprenant parce que il y a plusieurs mots. Le manifeste, donc ça, j'ai pensé à votre côté éditeur. Oui. Je me suis dit là, c'est l'éditeur qui parle. Parti et anarchiste. Je dirais que le parti et l'anarchisme, ça fait pas toujours bon ménage. Alors, est-ce que vous pourriez m'expliquer déjà, Léo Cher, le choix de ce titre ?
Alors, j'ai trouvé ce titre à la suite d'une lecture d'un livre écrit par une philosophe, Catherine Malabou, qui s'appelle « Au voleur ». Et qui développe une thèse intéressante qui est que les philosophes français des années 70 ont volé les idées anarchistes, mais sans oser l'avouer vraiment.
Oh, d'accord.
Qui est une thèse que je trouve amusante, assez pertinente. Il y a eu du vol, c'est clair. Mais je pense que si ces philosophes ne se sont pas déclarés anarchistes, c'est parce qu'ils n'étaient pas. Je ne crois pas que Derrida soit un grand anarchiste. Et même en creusant énormément sa pensée, je crois plutôt que les philosophes des années 70... ont été surpris par les événements de mai 68 et qu'ils ont couru un peu après l'anarchisme qui a été effectivement la dynamique, le principe dominant des événements. Et ils sont passés à côté avant, pendant et probablement après.
Est-ce que
c'est un peu de cette lecture que vient l'idée du manifeste du parti anarchiste. Je suis retourné voir le manifeste du parti communiste après la lecture de Catherine Malabou. Je me suis rendu compte qu'à l'époque où Marx et Engels écrivaient ce manifeste, le parti communiste n'existait pas. Et comme je pense que, par nature, le parti anarchiste ne